Que le nom du Seigneur soit béni. La parole de Dieu nous enseigne que ceux qui exhortent doivent s'appliquer à l'exhortation, que ceux qui enseignent doivent s'appliquer à l'enseignement. C'est clair que les pasteurs, les enseignants, etc. doivent s'appliquer à exhorter l'Église. Mais il est aussi dit, vous le lisez avec moi dans l'épître de Jude, juste avant l'Apocalypse, il est quand même demandé quelque chose aux chrétiens qui va certainement vous aider à faire de véritables progrès. Car je crois que si nous sommes venus dans la maison du Seigneur, c'est que nous voulons faire des progrès, vraiment des progrès. Et Dieu voit ceux qui ont soif, comme vous venez de le chanter. Ce matin, je méditais ce texte quand Jésus dit, mais c'est en vain qu'ils m'honorent. Vous vous rendez compte? Parce que vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent. Donc voyez, c'est impressionnant. Si vous vous rendez compte, vous m'honorez, mais ça ne sert à rien. Voilà pourquoi, parce qu'il n'y a pas la concrétisation de la vérité. Alors, dans Jude, au verset 20, c'est un verset qui est très très important, parce que beaucoup de chrétiens s'appuient sur l'enseignement du pasteur. Il y a une partie de vrai, mais c'est une erreur. Il y a des chrétiens qui ne font pas de progrès. Imaginons que le pasteur n'aille pas bien, ça peut arriver qu'un pasteur traverse des moments difficiles, que la pensée qu'il apporte ne soit pas la pensée de Dieu, ça soit juste une pensée générale. Donc, vous avez besoin, vous, de vous édifier. Et regardez ce que dit Jude, verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'un chrétien peut s'édifier lui-même. Et j'espère que ça fait partie de vos préoccupations de vous édifier vous-même. J'espère que vous priez pour que les enseignants dans l'Église vous exhortent, vous encouragent, mais je vous assure que nous ne nous rendons pas compte à quel point nous-mêmes, nous pouvons nous édifier en méditant la parole de Dieu. C'est écrit, c'est quelque chose de sérieux. On va voir ce soir des aspects, j'espère que vous avez pris un crayon, pour noter certains versets que vous allez vous-même méditer pour vous édifier vous-même. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, il y a une situation où le Seigneur Jésus a guéri des aveugles et des boiteux. Cela nous montre que ce que Jésus a fait, nous pouvons aussi le faire. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui voudraient que Dieu les utilise pour bénir les autres, pour amener la bénédiction sur les autres? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'en imposant les mains aux malades, les malades soient guéris? Oui, c'est la volonté de Dieu. Jésus n'a pas changé, on l'a vu dimanche. Mais regardez ce qui s'est passé dans Matthieu. Jésus rappelle une prophétie qui avait été dite par le prophète Ésaïe, Matthieu 21, verset 13. Dieu n'a pas changé d'avis, c'est exactement ce que Dieu veut toujours, que sa maison soit une maison de prière. Matthieu 21, 13, il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Voilà, ça c'est la volonté de Dieu, que l'Église soit une maison de prière. « Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Verset 14, « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. » Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Si vous étudiez, si vous veniez étudier la doctrine avec M. Olé ou avec moi-même, le jeudi de temps en temps, vous verriez qu'on ne peut pas prendre un verset sans tenir compte du contexte. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Voilà pourquoi la bénédiction a pu venir sur le ministère du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'il y avait de l'ordre. De l'ordre, de la discipline, et que ceux qui n'ont rien à voir dans nos temples, parce que le temple, ce n'est pas la peine d'aller à Jérusalem, il a été détruit, vous le savez, en 70. Ce que Dieu nous dit, c'est que nous les chrétiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nos vies sont le temple du Saint-Esprit. Et nous devons veiller à ce que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Donc, une chose est sûre, si nous voulons voir le Seigneur Jésus manifester sa vie dans l'Église, si nous voulons voir nos prières être exaucées, ça fait une semaine que je suis sur Jean chapitre 15, quand Jésus dit, mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et les coordinations de la Bible, les conjonctions de coordination, il ne faut jamais les oublier. On prend souvent les promesses comme ça, en veux-tu, en voilà, quand il est dit par exemple, mais tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est pas ça, c'est pas écrit ça. C'est écrit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais, et tout ce que vous demanderez. Et ça veut dire celui qui croit, comme Jérémie l'a dit tout à l'heure, celui qui obéit à la parole de Dieu. Alors, la première épître de Pierre. Alors, puisque ce soir je vais vous exhorter, mais je vais faire un dixième du travail. C'est vous qui, chez vous, allez vous appliquer à vous édifier vous-même. Vous devez apprendre à prendre un texte biblique et chercher les exhortations qui vous amèneront à cette conclusion dans 1 Pierre au chapitre 3, où il est dit, à la fin du verset 7, 1 Pierre chapitre 3, verset 7, c'est quand même important, parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Ne levez pas la main, si vous avez envie de le faire, faites-le, mais sincèrement, qui voudrait voir la gloire de Dieu? Allez, levez la main. Qui voudrait voir la gloire? Mais vraiment, qui voudrait la voir? Dans sa famille, dans son entreprise? Qui veut voir la gloire de Dieu? Eh bien, croyez-moi, si nous voulons voir la gloire de Dieu, il n'y a pas que la prière. Parce que je crois que l'Église doit être une maison de prière. Mais il n'y a pas que la prière. Il y a bien sûr la prédication de la croix, ça c'est le béaba. Une Église est une Église si on honore la prédication de la croix, si on honore le calvaire. Il ne peut pas y avoir la bénédiction sans la prédication de la croix. La croix, je résume bien sûr, la prière, mais il est certain que dans une Église où il y aurait ces deux valeurs, qui est la prédication plus la prière, il faut qu'il y ait la recherche sérieuse de ce qui peut faire obstacle à la prière. Donc dans 1 Pierre, à la fin du verset 7, qu'il en soit ainsi, ça veut dire de cette façon, en conclusion, n'oubliez pas que dans la Bible primitive, il n'y a pas des chapitres et des versets. Nous on est là, c'est un bienfait, c'est bien les versets, les chapitres. Tac de suite, en quelques secondes, on peut trouver un endroit que l'on cherche. Mais dans l'original, il n'y a pas des versets, il n'y a pas des numéros et des chapitres. Donc, la fin de ce troisième chapitre nous dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Au verset 12, les yeux du Seigneur sont sur les justes. Quelqu'un me disait tout à l'heure, Monsieur Gault, vous devriez faire une étude entre la différence entre la justification et la pratique de la justice. C'est une très très bonne idée, je l'ai déjà fait, peut-être pas suffisamment. Il y a une grande différence entre le fait d'avoir été justifié par le sang de Jésus-Christ, ce qui nous permet d'entrer au ciel, ça n'a rien à voir avec des progrès qu'on aurait fait, et puis le fait de pratiquer la justice, c'est-à-dire d'obéir à la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Alors je vais vous donner une je crois qu'il y en a 17, 17 versets, que vous allez vous-même méditer. C'est facile, après vous avez une Bible, vous cochez par exemple à partir du verset. Alors d'abord, on va voir l'état d'esprit. Il nous est parlé d'obéissance. Regardez, chapitre 1er, verset 2. Il est parlé des chrétiens qui sont élus selon la préscience de Dieu, chapitre 1er, verset 2. Ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père par la sanctification de l'Esprit, afin que quoi? Afin qu'ils deviennent obéissants. C'est quelque chose de terrible, ça. Il y a plein de chrétiens qui n'obéissent pas. Ils vont à l'église, mais ils n'obéissent pas. S'il y a bien quelque chose qui caractérise un chrétien, c'est qu'il obéit à Dieu. Il obéit. Un chrétien, c'est quelqu'un qui obéit. Regardez au verset 14. « Comme des enfants obéissants. » Verset 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » L'apôtre Paul parle, c'est pas Paul, c'est Pierre qui parle des sacrificateurs. Qui ont vociféré et qui ont tout organisé pour la crucifixion de Jésus, il est dit, une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. C'est-à-dire qu'ils ont été saisis par la prédication de l'apôtre et ils se sont mis à obéir. Mais il est dit, ils obéissaient à la foi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui obéit. Si vous n'obéissez pas, vous êtes un chrétien de nom. Il faut que vous le sachiez. On ne va pas passer 3 heures à vous l'expliquer. Si vous n'obéissez pas, vous pouvez être pentecôtiste, catholique, protestant. Ça ne sert à rien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui obéit. Jésus revient chercher ceux qui obéissent. C'est écrit ou c'est pas écrit? Où c'est que c'est écrit? Ah, c'est bien, Jérémy. Chérie, tu me présenteras ton formateur. Mais regardez dans 2 Thessaloniciens. Mais c'est important. C'est bien, Jérémy, tu ne peux pas te tromper comme ça. Regardez, 2 Thessaloniciens, c'est important. Il y a des gens qui s'imaginent que Jésus va reprendre tous les gens qui croient. C'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur prendra tous ceux qui obéissent. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er et verset 5. Si nous ne voyons pas la gloire de Dieu, c'est parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Il ne faut pas se leurrer. Parce que s'il y en a un qui veut voir la gloire de Dieu, est-ce que Dieu veut montrer sa gloire? Oui. Mais il désire que ça passe par des vases sanctifiés. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est les chrétiens, ceux qui n'obéissent pas. Franchement, mes frères et sœurs, si nous voulons voir la gloire de Dieu, tout à l'heure, vous rayonnez lorsque je vous ai posé la question, nous verrons la gloire de Dieu. Si nous prêchons la croix, si nous sommes une maison de prière, et s'il n'y a pas d'obstacle à la prière. Alors, premièrement, verset 13, je vais vous les donner d'abord, parce qu'on ne va pas les voir tous ce soir, mais vous pouvez chez vous, comme je l'ai dit en introduction, vous édifier vous-même sur votre très sainte foi et prendre un dico si vous en avez besoin. Moi, ça fait 34 ans que je lis la Bible et j'ai toutes les semaines mon dictionnaire, mon Robert, mon Larousse pour voir la définition d'un mot. Parce que des fois, on croit connaître un mot et croyez-moi, on est surpris quand on voit vraiment ce qu'il veut dire. Alors, 1 Pierre chapitre 1er, verset 13. D'accord ? Après, il y a le verset 14, où il y a une exhortation. Il y a le verset 15, on va en voir certaines, ne vous inquiétez pas. Le verset 17, le verset 22, le chapitre 2, verset 1er, verset 2, verset 4, c'est bon ? Vous pouvez marquer, vous suivez ? Verset 5, verset 11, verset 12, verset 13, verset 17, verset 18, chapitre 3, verset 1er, et le verset 7. C'est bon ? Vous l'avez marqué ? Vous avez du travail pour les vacances. Mais j'espère que vous allez le faire consciencieusement, vraiment comme quelque chose de sérieux devant Dieu. Mais vous savez, je pense que le diable, vous savez, moi je ne suis pas du genre à mettre le diable dans toutes les sauces. Mais quand même, il cherche à nous aveugler, vraiment à nous aveugler, afin que nous croyons que parce que de temps en temps, une de nos prières est exaucée, que cela coule bien avec Dieu. Croyez-moi, le Seigneur ne veut pas nous exaucer tous les 6 mois. Moi, je crois que le Seigneur, il peut nous exaucer tous les jours. Vous le croyez, frères et sœurs ? Alors, commençons par le début. Il y a cette notion d'obéissance. Parce que quand même, si vous étiez venu que pour étudier, ce matin, quand je priais, je pensais à un pasteur protestant, je le dis, c'est peut-être pas bien, qui venait quand je prêchais. Il y avait beaucoup de monde le mardi soir, l'église était remplie, je faisais de l'enseignement comme là. Et il y avait un pasteur protestant, très, très guindé et tout, qui venait me voir. Et un jour, je lui pose la question, tiens, vous êtes chrétien ? Oui, il me dit, je suis pasteur, je viens voir si ce que vous dites est biblique. Et il dit, mais c'est bien, si un jour vous constatez quelque chose qui ne l'est pas, dites-le-moi. Et je ne l'ai pas vu au bout de quelques mois. Et quelqu'un me dit, mais vous savez pas ce qu'il est devenu, le pasteur ? Vous savez ce qu'on m'a répondu ? Il est en prison pour pédophilie. Ouais, ça fait pitié, quoi. Ça m'a fait pitié parce que vraiment, le gars, il connaissait la Bible. Mais ouais, pourquoi je vous dis ça ? Je ne dis pas ça. Je le dis, ça fait pitié. Ça fait pitié de le dire. Mais mes frères et sœurs, on n'est pas là pour juger le prédicateur, pour savoir s'il a de l'art dans sa façon de prêcher. Non, on est là pour entendre la voix de Dieu, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien Seigneur, je vais le modifier dans ma vie. 1 Pierre chapitre 1er, verset 13. C'est pourquoi, suite à notre position, saignez les reins de votre entendement. Alors après, il y a une deuxième exhortation. Soyez sobres. Troisième exhortation, ayez une entière espérance. Mais la première exhortation pour en arriver à ce stade où nos prières vont être exaucées, c'est de faire en sorte que nos reins soient sains. Alors, on va prendre 2 ou 3 versets pour expliquer ce verset. Saignez les reins de votre entendement. C'est la faculté de comprendre, la faculté de connaître les choses de Dieu. Que notre esprit soit captif. Vous savez quand il est dit, mais amenez vos pensées captives à l'obéissance de Christ. Quand Paul dit par exemple dans Éphésiens, lisons-le ensemble, gardez la page bien entendu, dans Éphésiens, Paul parle de l'importance de nous revêtir de toutes les armes. C'est un commandement. Vous savez, la vie, c'est un combat. La vie, c'est une bénédiction avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire que c'est aussi un combat. C'est ça la vie. Comme je disais tout à l'heure, il y a des temps pour rire, il y a des temps où on est joyeux. Est-ce qu'il y a des temps où on est joyeux? Oui, il y a des gens, il y a des temps où on pleure. C'est normal tout ça, vous offusquez pas. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour combattre. Et bien, Paul termine l'épître en disant que nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Il nous dit de nous revêtir de toutes les armes. La première arme qu'il décline est celle-ci, verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Les reins de notre entendement, c'est notre intelligence. C'est notre esprit. Nous devons bien comprendre une chose, c'est que notre esprit doit être rempli des choses de Dieu. C'est pour ça que l'ennemi fait tout pour qu'on soit accaparé par les choses de la terre. Vous savez, quand même, ça va loin ces affaires. Parce que la Bible dit que l'esprit de vérité, le monde, ne peut pas le recevoir. Si je suis mondain, que je ne m'attende pas à être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui se rend ami du monde... Moi, ça me fait frémir, ça. Celui qui se rend ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et un chrétien, il doit avoir son esprit accaparé, comme Dieu a demandé à Josué. Vous rappelez ce que Dieu a dit à Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. On a un entendement, et il faut veiller à ce que les choses de la terre ne viennent pas s'entremêler et nous attirer et nous éloigner des choses de Dieu. Beaucoup de gens sont d'accord avec la prédication. Ils sont capables de dire, oh oui, tout ce qui a été prêché, c'est vrai. Tout ce que je lis, bien sûr, c'est vrai. Mais laissez-moi vous dire que comme Jésus l'a souligné, le diable, les oiseaux du ciel, ils viennent enlever ce qui a été semé. On n'est pas au bout de la rue que déjà on a oublié. Pourquoi? Parce que les choses de la terre viennent accaparer notre esprit. Un peu plus loin dans 2 Corinthiens au chapitre 10, avant, pardon, 2 Corinthiens chapitre 10, il parle de ce combat. Il y a un combat, il y a vraiment un combat. Vous le savez qu'il y a un combat, je ne pense pas vous enseigner grand-chose là. Il y a un combat à mener. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Ce sont des textes qu'il vous faut méditer pour arriver à cerner toutes ces exhortations. C'est pour ça que je vous ai pris ce verset, édifiez-vous. Vous-même, ne lisez pas bêtement la Bible, excusez-moi l'expression, mais quand même c'est vrai qu'on peut la lire mécaniquement et ça ne produit rien du tout, absolument rien du tout. Il faut la méditer, la parole. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà ce que ça veut dire, saigner les reins de votre entendement. Cela veut dire que je m'applique à faire en sorte que mon esprit domine tout mon être. Ce n'est pas à mon âme, c'est-à-dire à mes émotions, de me commander, de me diriger. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont charnels, sont superficiels, ils sont dirigés par la vie des émotions. Et non pas par la parole de Dieu. C'est sérieux cette affaire, mes frères et sœurs. Saignez les reins de votre entendement. Il y a des chrétiens, c'est très 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 difficile. Ils sont tout le temps en train de se disputer, de râler, parce qu'ils sont gouvernés par l'âme, par les émotions. Et il y a des chrétiens qui sont spirituels, parce qu'ils sont dirigés par la vie de l'esprit. Et ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, qu'est-ce qu'il est dit après? Ne sauraient plaire à Dieu. Alors mes frères et sœurs, cette première exhortation-là, saignez les reins de votre entendement, c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse. Est-ce que vraiment, je veux que tout mon être soit captif aux choses spirituelles? C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose, ça va avoir une répartie biblique. Est-ce qu'on peut utiliser le bouclier de la foi en permanence? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Comment vous le vivez-vous ça? Mais ça dépend de notre communion avec Dieu. Si vous entretenez une communion avec Dieu, quand vous avez une épreuve, un problème, une attaque, une difficulté, de suite, vous pouvez surmonter le mal par le bien. Oui, tu mets la ventilation, la petite. Et j'aimerais, mes frères et sœurs, que vous compreniez bien une chose, c'est que ça se travaille. Saignez les reins de votre entendement. On le relit ce verset, 1 Pierre chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi, suite à toute votre position... Saignez les reins de votre entendement. Je ne sais pas si vous aviez déjà réfléchi à ce verset. à cette exhortation. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Saignez les reins de votre entendement. Nous pouvons amener nos pensées captives. C'est une grande bénédiction. Heureux le jour où les chrétiens seront obsédés par la parole de Dieu. Que chaque chose qu'ils verront, chaque chose qu'ils feront, sera liée à surmonter le mal par le bien. Saignez les reins de votre entendement. Et ça, ça ne peut se faire que si on médite la parole de Dieu tous les jours. Il y a un verset qui dit « Veille attentivement sur ton âme tous les dimanches matin ». C'est ça qui est écrit ? Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. La lecture de la Bible, c'est pas « Oh, il faut lire, on nous demande tout le temps de lire la Bible, oh, ça nous saoule, on entend ça tout le temps ». Mais bon, si vous réagissez comme ça, c'est comme un enfant qui vous dirait « Il te faut manger un bonbon tous les jours ». Et que cet enfant vous dit « Oh, ça, il m'énerve, c'est parce qu'il n'a jamais mangé de bonbon ». Croyez-moi. Ou du chocolat. Vous savez ce que c'est le chocolat, le Nutella ? Vous connaissez cette affaire ? Est-ce que c'est bon ? Hein ? Est-ce qu'on a besoin de forcer quelqu'un à manger tous les jours ? Ben non, quand quelqu'un aime quelque chose, ça va être un plaisir. Et la Bible dit « Mais heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ». C'est sûr que si c'est considéré comme une obligation, « Oh, c'est comme ça que ça marche, oh, il faut que mon intelligence soit imprégnée constamment des choses de Dieu », eh bien oui, si nous voulons que nos prières soient exaucées, nous devons veiller à entretenir une véritable communion avec le Seigneur. Notre communion, elle est avec le Père et avec le Fils, dit la parole du Seigneur. Nous pourrions faire bien sûr toute une exhortation là-dessus, mais je vous encourage à le faire par vous-même et à prendre les textes qui nous indiquent comment on peut entretenir cette communion avec Dieu. Est-ce qu'il y a un texte qui vous vient à l'esprit, par exemple ? Comment ? Oui, priez sans cesse, encore un autre qui pourrait vous venir à l'esprit quand il est dit, au reste frère, que tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées et le Dieu de paix sera avec vous. Voyez, c'est quelque chose que vous pouvez travailler, vous pouvez tous devenir des pasteurs stagiaires en quelque sorte. Hein. D'accord ? Deuxième conseil, soyez sobre. Ah, la sobriété. Est-ce que ça a à voir qu'avec l'alcool, la sobriété ? Non, ça a à voir aussi avec les paroles. Les paroles, est-ce que vous savez qu'on peut faire beaucoup de mal avec les paroles ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous ne regrettez pas des fois d'avoir dit certaines choses ? Allez, qui n'a jamais dit quelque chose qu'il aurait dit, oh, si j'avais su, je me serais tu ? Ça vous est jamais arrivé, ça ? Mais tous, et nous devons être sobres en parole. C'est écrit un petit peu avant, regardez avec moi dans Jacques. C'est des clés pour avoir la bénédiction, parce qu'on la veut cette bénédiction, et Dieu veut la donner. Dieu la veut plus que vous, croyez-moi. Jacques chapitre 1er. Verset 19, c'est demandé aux hommes, mais aux hommes, c'est dans le sens, c'est le mot humus, c'est-à-dire c'est aussi bon pour les hommes que pour les femmes, ça vous l'avez compris. Jacques chapitre 1er, verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Lent à parler. Voilà ce que Dieu demande. Parce qu'on évite vraiment des problèmes quand on ne parle pas. La Bible dit que même l'insensé, quand il ne parle pas, on croit que c'est un sage. Pour vous dire les bienfaits qu'il y a à éviter de parler. Soyez lent à parler. Soyez sobre en toute chose, dit la parole de Dieu. Ce sont des conseils. Et ça nous prouve la maîtrise de soi que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à être sobre. Nous voulons que nos prières soient exaucées. Ça en fait partie. Ce sont des exhortations qui en font partie. Vous pourrez bien sûr méditer le sujet de la sobriété. Ayez une entière espérance. Une entière espérance. C'est vrai que des fois, on est découragé. On est découragé des fois. Il y a des choses qui nous découragent. Il y a des situations qui nous affligent. Eh bien, comme on l'a chanté, il faut se rappeler qu'un jour, nous verrons Jésus. Une entière espérance. Le mot « entier » nous parle du fait d'être rempli. Quelque chose qui est entier, c'est quelque chose qui est plein. Et vous avez souvent dans la Bible une entière espérance, une entière bénédiction, une entière satisfaction, etc. Ça nous parle des gens qui sont remplis. Il est certain que cette entière espérance fait allusion à la grâce que nous avons d'être remplis. Mes frères et sœurs, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit, afin que nous ayons de l'espérance. C'est bien d'avoir de l'amour. C'est bien d'aimer les gens. Mais c'est bien aussi d'avoir de l'espérance. Vous espérez en Dieu ? Ah ouais. Heureux êtes-vous si vous avez de l'espérance. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. les convoitises. Alors il faut bien faire la différence entre les tentations et les convoitises. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre un dictionnaire. Parce qu'il y a des gens qui sont traumatisés parce qu'ils confondent la tentation et les convoitises. C'est un sujet sérieux, ça. Les convoitises, c'est grave, les convoitises. La convoitise, c'est qu'on est accaparé par des choses que Dieu ne veut pas nous donner. La Bible dit que tu ne convoiteras pas le bœuf de ton prochain, la Mercedes de ton prochain. C'est pas écrit comme ça, mais c'est à peu près la même chose. Vous êtes d'accord? On peut avoir envie. Un voisin peut avoir une jolie voiture. Est-ce qu'on peut avoir envie d'avoir une jolie voiture comme celle du voisin? Est-ce que c'est un péché? Non, envier, non. Tiens, ça me ferait plaisir d'avoir, parce que ça me plaît. Il faut bien faire la différence entre la convoitise, le fait d'avoir envie de quelque chose qui peut être sain si on peut se le payer, et puis la tentation. Combien de fois j'ai vu des gens qui étaient tourmentés, parce qu'ils ont confondu la convoitise et la tentation. La convoitise, c'est que je veux vraiment arriver à mes fins. Je convoite cette femme. Voilà, c'est grave la convoitise. Vous connaissez le verset dans Matthieu chapitre 5? On va y aller. Pour expliquer la convoitise. Ou cet argent qui ne m'appartient pas. Jésus parle de la convoitise et de la tentation. Est-ce que Jésus a été tenté? Oui. Est-ce qu'il a été tenté en toutes choses? Bon. Sans commettre de péché, dont la tentation n'est pas un péché. Beaucoup de chrétiens sont traumatisés et s'imaginent que la tentation, c'est un péché. Mes frères et sœurs, il faut avoir de l'assurance. Vous ne pouvez pas avoir de l'assurance si vous emmêlez les pinceaux entre la convoitise et la tentation. Regardez Matthieu chapitre 5. Jésus parle de la convoitise. C'est Matthieu chapitre 5, oui, il me semble. Matthieu chapitre 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bon, vous avez lu avec moi? Il n'est pas dit que quelqu'un est tenté en regardant une femme. Vous faites la différence? La tentation, ce n'est pas un péché, puisque Jésus a été tenté comme nous en toute chose, sans commettre le péché. Une tentation, ça peut arriver, bien sûr, il ne faut pas s'y attarder, c'est peut-être pas intelligent. Et il vaut mieux pas s'y attarder. Mais la tentation, ça peut arriver. Jésus ne dit pas « celui qui est tenté en regardant une femme a déjà commis l'adultère avec elle ». Je me souviens, moi, de ce frère, quand j'étais jeune pasteur Albi, il était furieux, furieux. Et un jour, j'ai pris rendez-vous avec lui, je voyais qu'il était complètement paniqué. Et un jour, j'ai dit « écoutez, je peux vous voir ». Alors, je l'ai vu et je lui dis « mais qu'est-ce qui vous arrive, toi ?»« Oh, monsieur Gou, je suis un adultère, je suis un adultère, j'ai trompé ma femme, je ne sais pas combien de fois. » Je lui dis « mais c'est grave, moi j'étais complètement foulé. » Mais il dit « comment ?»« Ben oui, vous avez vu ce que Jésus a dit, que celui qui convoite une femme, il a déjà commis l'adultère avec elle. » Mais je lui dis « mais c'est pas ça qu'il a dit. » Et j'ai dit « mais vous convoitez les femmes, vous avez envie de coucher avec une femme qui n'est pas la vôtre ?»« Mais non, mais non, mais non, mais parfois je suis tenté, et Jésus dit qu'on a commis l'adultère. » J'ai dit « mais voyez, et cet homme il était furieux, contre lui-même. » J'ai dit « mais c'est pas ça qui est écrit. » Les convoitises, c'est vraiment, je vais tout faire pour arriver à mes fins. Et quand la Bible nous demande ces choses, c'est ça la justice. Le juste a de l'assurance. Quand il est dit que le juste a de l'assurance comme un lion, il y a des chrétiens, ils sont là, ils n'ont pas pris le temps. Vous voyez, ils sont sérieux, ils sont capables ça pour de disséquer un truc, ça sur un contrat d'assurance. Alors ça, ils ont intérêt pour avoir les 15 euros de plus, ça ils vont le disséquer le contrat. Mais quand même, mes frères et sœurs, nous voulons que nos prières soient exaucées et il faut que l'on soit capable de faire la différence entre la tentation et la convoitise. La convoitive, c'est grave. Parce qu'on veut arriver à ses fins. C'est-à-dire que je vois un billet de 50 euros, je vais m'arranger. Voilà. C'est sûr, je l'ai déjà volé, puisque je sais comment je vais faire pour le piquer, le billet. Je suis déjà un voleur. Si j'anticipe une situation et je veux arriver à mes fins, je suis déjà un adultère. Mais ne confondez jamais la tentation et la convoitise. Ce chrétien, il avait 15 ans de conversion. Il n'avait jamais réfléchi à ce sujet. Moi, je peux vous dire que quand je me suis converti, j'ai de suite réfléchi à ça. Parce que j'en avais besoin. Enfin, je ne sais pas, les hommes ou les femmes, est-ce qu'on n'a pas besoin de comprendre ces choses? On en a besoin. Comment pouvons-nous avoir de l'assurance si on mélange la convoitise avec la tentation? Et il n'y a pas que ce texte. J'ai pris ce texte parce que c'est le plus fort, peut-être, qui nous revient à l'esprit. Je continue. Vous y êtes avec moi? Vous finirez de toute façon. Hein, les 17 points, enfin les 17 versets. Les 17 versets. Il y en a des versets. Alors, quand il est dit,
au verset 15, « Puisque celui qui vous a appelé est saint », là aussi c'est un drôle de verset ça, qu'est-ce qu'il est dit ?« Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. » C'est une la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous devons être sérieux avec la sainteté. Aujourd'hui, la sainteté dans les églises, presque on se moque des chrétiens, presque, qui recherchent la sanctification, qui s'appliquent à la sanctification. Ouais, il en fait trop, c'est un légaliste. Combien de fois, moi, on m'a traité de légaliste? Franchement, je sais que j'ai des progrès à faire dans plein de domaines, mais je ne pense pas être un légaliste. Parce que, justement, je demandais à ce que ces choses soient vécues dans la sainteté. Un chrétien, il a le souci de la sanctification. Alors là, il y a des livres entiers qui ont été faits sur la sanctification, et ce n'est pas moi ce soir qui vais vous entretenir sur ce sujet. Mais c'est un principe biblique. Un chrétien, il a le souci de la sainteté. Et vous savez que c'est à cause de cela que l'Esprit de Dieu n'agit pas dans les églises. Vous savez, on peut attrister le Saint-Esprit. Ce matin, je priais, et je réfléchissais à tout ce qui peut attrister le Saint-Esprit. Je voulais le faire pendant les annonces, mais je vais le faire là, parce que comme c'est enregistré, les gens qui m'écoutent par Internet, ils ont besoin de l'entendre, ça. Lorsqu'on refuse de témoigner quand ça se présente, est-ce que Dieu peut nous pousser à témoigner? Oui, eh bien, on attriste le Saint-Esprit. Et je crois, mes frères et sœurs, qu'on devrait prendre cette chose au sérieux. Je suis convaincu que dans une église, le fait de ne pas vouloir témoigner, je le répète quand ça se présente, ça peut être un obstacle, ça peut attrister le Saint-Esprit. Et qu'il est judicieux d'avoir toujours sur soi, dans sa voiture, dans sa boîte à gants, dans son sac à main, enfin, où que nous voulions, un évangile, parce que je crois que le plus important dans un témoignage, ce n'est pas notre témoignage, parce que notre témoignage, il est ce qu'il est. Je pense que c'est important de donner un évangile. Votre témoignage, les gens ils peuvent le discuter ou pas. Mais ça, quand on l'a donné, je crois qu'on a plu à Dieu. Est-ce que vous croyez que ça plaît à Dieu quand on donne un évangile? Vous savez, quand on a donné un évangile à quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous reproche? Puisque vous avez permis à la personne d'entendre la voix de Dieu. Et je vous encourage à partir avec des évangiles. Et je sais que les jeunes, vous n'êtes pas très fortunés. Quoique, quand il faut aller au McDo, vous avez trouvé 8 ou 9 euros. Ça vaut 15 centimes un évangile. 15 centimes ou 20? 15. 15 centimes. Alors bien sûr que nous, on peut vous les offrir tant que vous voulez. Même comme je l'ai dit dimanche après-midi, c'est la seule chose que vous avez le droit de voler ici. Vous pouvez voler des évangiles. Vous les en tant que vous voulez, si c'est pour les donner, bien entendu. Bien sûr que je plaisante. Mais je crois réellement que ça peut attrister le Saint-Esprit quand on ne témoigne pas quand on devrait le faire. Et des fois, on est maladroit. Moi, ça m'est souvent arrivé de ne pas avoir d'évangile, de râler, de ne pas en avoir, mais de ne pas pouvoir témoigner, dire à quelqu'un, écoutez, je suis chrétien, je ne vous ai pas parlé de ma conviction, mais tenez cet évangile, lisez-le. Je crois que ça vaut le meilleur témoignage, ça. Mais vous voyez, ce sont des choses qui contribuent à la vie de l'esprit dans l'Église. On a à cœur les âmes. Vous avez à cœur les âmes? Eh bien, ayez toujours sur vous, toujours, toujours, toujours sur vous, 1, 2, 3 évangiles, s'il vous plaît. Faites-le, ça contribuera à la gloire de Dieu dans le royaume du Seigneur. Au verset 17, « Si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Vous voyez, ce respect. Un chrétien, il a le respect. Il a le respect. Il a le respect des choses de Dieu, pas à l'Église. Pas à l'Église. Pas qu'à l'Église. Un chrétien, il a le respect tout le temps. Et nous devons avoir cette liberté de nous reprendre si on a dit une parole déplacée. Ça peut arriver que ça nous échappe une parole. Eh bien, il faut dire pardon, je n'aurais pas dû te dire ça. Pardon, c'est pas intelligent. Voilà. Ce sont des choses. Voilà, alors, je vois que l'heure retourne. Mais regardez quand même, on va pas. S'il vous plaît, faites-le vous-même. Je pense que Dieu nous a donné un cerveau, de l'intelligence, des dicots. Je pense que chacun est capable de dire, mais c'est quoi? Et le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit est capable de nous éclairer? Mais bien sûr, si vous lisez, si vous méditez ce chapitre, moi je l'ai fait pour moi, alors donc chacun peut le faire. Quand il est dit au verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, aimez-vous ardemment les uns les autres. » Est-ce que c'est facile d'aimer? Allez, soyons sérieux. Est-ce que c'est facile d'aimer? Est-ce que c'est facile d'aimer les autres? Ben non, c'est pas toujours facile. Est-ce que Dieu peut nous aider? Est-ce que dans ce moment de communion, Seigneur, donne-moi d'aimer vraiment, d'aimer tout le monde, vraiment d'aimer. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Voyez, après, que rejeter toute méchanceté, verset 2, chapitre 2, verset 1er. La ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Oh, moi, combien de fois j'en ai honte? Combien de fois j'ai été médisant? Vous savez, la calomnie, ce sont des choses qui ne sont pas vraies, que l'on dit. Tu sais, monsieur Untel, il a fait ça, on l'a entendu, on ne sait même pas si c'est vrai. C'est un truc qui arrive, ça, la calomnie. C'est des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et ça, ça arrive. Je peux vous le dire que je sais de quoi je parle. On dit des choses, on nous fait dire des choses qu'on n'a jamais dites, bon, ce n'est pas grave. Mais la médisance, c'est plus vicieux. C'est-à-dire que ce sont des choses vraies que l'on rapporte, qui ne sont pas bien. Alors, mais surtout dans le sens de nuire. Tu sais, monsieur, tu sais, Jérémy Gadrois, eh bien, il a dit ça. Ah bon? Ben oui, il a dit ça. C'est 30 secondes. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, alors, on peut dire, tiens, Jérémy, tu sais pas ce que Jérémy l'a fait comme ça pour parler. Mais on peut le dire dans le but de médire, c'est-à-dire de dire du mal de Jérémy. Est-ce que vous comprenez? La médisance, c'est quelque chose de vrai. Mais je le répète, dans le but de nuire. Après, si on peut dire, tiens, Jérémy, il a fait ça, bon, oui, c'est... on peut parler d'une chose. On le sait très bien quand on dit quelque chose, parce qu'on le parle, parce qu'on le dit, mais, ou alors quand on dit quelque chose dans le but de nuire à la personne. Vous voyez, la médisance, ça vaut la peine d'y réfléchir. Nous voulons que nos prières soient exaucées. Moi, je vous assure, je l'ai été médisant. C'était pas forcément dans le but de nuire, mais il y avait un peu de mélange, je vous le dis franchement. J'en ai honte. Que Dieu nous donne dans l'Église de ne pas médire et d'être sérieux. Alors, regardez, enfin, vous lirez tout ça, le verset 17. Moi, c'est le verset 17 qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup interpellé dans l'Église. Quand il est dit, 1 Pierre 2, verset 17, « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez, bon, on n'a pas de roi, donc, honorez le président. » Comment on peut faire pour honorer le président? Comment on peut faire? Comment on peut faire aujourd'hui pour honorer le président? Eh bien, priez pour lui. Est-ce que c'est écrit? Avant toute chose, de prier pour ceux qui nous gouvernent. Est-ce que c'est écrit? Eh bien, voilà. Mais Seigneur, je te prie pour le président de la République. Je te prie, Seigneur, pour... c'est pas pour qu'il soit béni. Un jour, on dit, monsieur Gault, vous avez demandé qu'il fallait bénir les autorités. Mais c'est pas pour qu'il soit béni. C'est pour que l'action du Saint-Esprit agisse au travers dans la vie de ces hommes. Et moi, je crois que Dieu peut agir. C'est avant toute chose, c'est écrit où ça tient, avant toute chose, priez pour les autorités. Jérémy, Timothée, c'est bien. Mais on va le lire. Un Timothée, chapitre 2. Ce sont des choses sérieuses. « Afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. » Regardez, 1 Timothée, chapitre 2. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Je répète, avant toute chose, pour les rois. Alors ne faites pas comme quelqu'un m'a dit, « Oh, on n'a pas de roi, on n'est pas en royauté, on est en démocratie. Ben, » bon. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, regardez le but, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, car je crois que Dieu veut que nous menions une vie paisible. Mais c'est écrit, voyez, qu'il en soit ainsi. Alors, oh, que vous soyez de droite ou de gauche, je ne sais pas, moi, si un chrétien, de toute façon, il est de droite ou de gauche, je crois qu'un chrétien, il ne fait pas de la politique, il prie pour son pays. Mais voyez, on entend les gens se moquer, et t'as pas vu l'émission avec tel comique là, il faut que... Mais moi, je ne regarde pas ces choses. Est-ce qu'un chrétien doit s'asseoir en compagnie des moqueurs? Eh bien non. On s'étonne que nos prières ne soient pas exaucées. Sincèrement, je crois qu'un chrétien, eh bien, il prie pour les autorités de son pays, de sa ville, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Au verset 18, « Serviteurs, soyez soumis en toutes choses à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Tiens, ça peut arriver d'avoir quelqu'un au-dessus de soi qui est difficile? Ça peut arriver d'avoir un pasteur difficile? Oui, il fait signe oui. Est-ce que ça peut arriver? Mais oui, ça peut arriver. Dieu nous éprouve au travers d'un patron difficile, au travers d'un supérieur difficile. Qu'est-ce que la Bible dit ? Soyez soumis. Alors moi, lui, il fait ça, je ne me soumets pas. Eh bien, écoutez-moi, je crois que nous devons nous soumettre aux autorités. Là, c'est un grand chapitre. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas la bénédiction et n'ont pas leur prière exaucée parce qu'ils ne se soumettent pas aux autorités qui sont au-dessus d'eux. L'agent au coin de la rue, on s'en fiche. Moi, je fais comme je veux. Moi, je crois, mes frères et sœurs, que nous devons nous soumettre aux autorités. Est-ce que c'est écrit ? Eh oui, ce sont des choses sérieuses. Nous voulons un réveil et nous ne sommes pas capables d'être simples avec des choses qui sont écrites ainsi. Après, il est parlé des femmes, comment elles doivent se comporter avec leur mari. Est-ce que c'est important qu'une femme sache comment elle doit se comporter avec son mari ? Est-ce que c'est important qu'un mari sache comment il doit se comporter avec sa femme ? Ben oui, eh bien, que chacun s'occupe de son verset. Que chacun s'occupe. Ne commencez pas à dire, oui, toi tu dois te soumettre. Oui, toi tu dois m'aimer. Ma femme, elle dit toujours que chacun s'occupe de son verset. Mais je crois que c'est vrai. Je crois que c'est bien. Que chacun, parce qu'on rendra compte chacun pour nous-mêmes. Mais là, quand même aussi, on devrait pouvoir dire, mais qu'est-ce que Dieu me demande ? En tant qu'épouse, qu'est-ce que Dieu me demande ? En tant que mari, qu'est-ce que Dieu me demande ? Par rapport à mon épouse, par rapport à mes enfants, qu'est-ce que Dieu me demande ? Mes frères et sœurs, est-ce que vous regardez toute cette trame ? Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est clair, si nous prenions la première épître de Pierre, que la première épître de Pierre, et que nous la méditions, et que nous disions, mais c'est vrai, il faut que je sois sérieux, je n'ai pas à me trouver dans la télé à regarder ces absurdités où on se moque d'un tel. Non, un chrétien, il ne se plaît pas en compagnie des moqueurs. Je crois qu'il y a un temps pour rire, moi j'aime rire personnellement, mais il ne faut pas se moquer. Vous avez vu un texte où Jésus se moque de quelqu'un parce qu'il est gros, parce qu'il est maigre ? On le voit ça des fois. T'as vu celui-là, il est gros. Il est gros, on se moque des gros. Un chrétien. Mais non, mais sérieusement. Vous croyez que c'est comme ça qu'on va, plaire au Saint-Esprit ? Mes frères et sœurs, il y a des principes. Ces principes-là, ils font que nous pratiquons la justice. Alors moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier le Seigneur et qu'on puisse dire, Seigneur, mais aide-moi. Aide-moi à comprendre les choses. Oui, achetez-vous un dictionnaire. Un bon dictionnaire si vous n'en avez pas. Ne dites pas, oh c'est cher, 40 euros c'est cher. Vous croyez que c'est cher pour arriver à des explications ? Moi je crois que c'est pas cher un dictionnaire. Franchement, si vous en êtes à ça près, je pense que c'est grave. Mes frères et sœurs, demandons à Jésus qui nous éclaire. Vous voulez que vos prières soient exaucées ? Vraiment, nous voulons voir la gloire de Dieu dans l'Église. Et prenons toutes ces choses. J'en ai parlé de 17, il y en a d'autres. Mais déjà, si nous prenions ces choses et que nous nous appliquions et que nous demandions, aide-moi, j'ai du mal à me soumettre aux gendarmes. J'ai du mal à me soumettre. Et aussi, les radars, c'est bien quand même. Mais il n'y a pas que les radars qu'il faut se soumettre. Il faut se soumettre aussi aux gendarmes. Quand j'entends, moi, ce que j'entends, dans les églises, je peux vous dire que je comprends pourquoi il n'y a pas le réveil. D'ailleurs, on devrait arrêter de prier pour le réveil. Arrêter. Et dire au Seigneur, assigne-moi à t'obéir. Et je peux vous dire que le réveil viendra. Alors, on va fermer les yeux quelques instants. Tout simplement, on est sous le regard de Dieu. On avait rendez-vous avec le Seigneur. Vous avez appris certaines choses. Si vous laissez le Saint-Esprit vous parler, vous allez peut-être en apprendre une centaine d'autres. Au travers de cette épître de Pierre. Alors prions le Seigneur quelques instants. Notre Père, notre Dieu, merci pour la croix, merci pour ta parole. Merci pour ton sacrifice au calvaire, mais ta parole nous permet de pratiquer la justice. Oui, nous voudrions faire la prière fervente du juste. Seigneur, tu nous vois, nous sommes sous ton regard. Nous sommes venus dans ta maison, nous avons soif de ta présence, nous avons soif de ta vie, non pas juste d'une lumière biblique, mais de ta vie, qu'elle jaillisse dans les corps, dans les cœurs. Nous avons soif, Seigneur, oui, de te voir marcher au milieu de nous. Mon Dieu, pardonne-nous, pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les choses, toutes les actions, les propos qui ont été contraires à la justice. Seigneur, nous sommes devant toi. Tu dis que tu marches au milieu des chandeliers d'or. Combien nous voudrions que nos vies entières soient faites d'or et d'argent. Que rien d'impur ne vienne s'infiltrer dans nos vies. Oui, Seigneur, tu vois mes frères et sœurs, tu nous vois. Ceux qui écouteront par le biais d'Internet cette méditation, mon Dieu. Oui, nous voulons travailler de sorte que rien n'attriste ton esprit. Nous voulons prendre ces choses assez à cœur, comme Samuel, qui ne laissait tomber à terre aucune de tes paroles. Nous comprenons vraiment maintenant pourquoi tu as utilisé cet enfant, pourquoi tu l'as béni, pourquoi il est devenu ce prophète en Israël. Merci pour ces témoignages. Oui, Seigneur, aide-nous à travailler ces choses. Tu nous demandes de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Nous voulons le faire et surtout avec beaucoup de joie, Seigneur. Nous croyons, oui, que celui qui demeure en toi et en qui tu demeures, Seigneur, tu lui donnes ta grâce. Seigneur, qu'il en soit ainsi dans ta maison. Donne-nous cette faveur de nous appliquer à obéir à ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Amen.